Mes amis, dans cette soirée du 20 juillet, nous allons poursuivre notre étude sur les enseignements du Dieu vivant en nous inspirant du livre des Proverbes et en recherchant, comme nous vous l'avons dit chaque soir, comment découvrir et comment contempler le visage de Jésus dans les Proverbes, en attendant cette heure bénie où nos yeux le verront et où nous serons en un instant, en un clin d'œil, rendus semblables à lui. Nous le verrons tel qu'il est. Et quand nous le verrons tel qu'il est, alors nous lui serons semblables. Et plus sur la terre nos yeux le voient par la foi, plus nous pouvons lui ressembler. L'apôtre Paul disait, nous tous qui contemplons à visage découvert la gloire du Seigneur, nous sommes transformés, non pas du tout, nous nous transformons. Il n'est pas question d'un effort pénible, il est question d'un regard fixé sur Jésus. Et quand on le regarde, comme le dit le psaume 34, on est rayonnant de joie, où on est comme illuminé et le visage ne se couvre pas de honte. Nous voulons nous réjouir de cette perspective. Et au lieu de voir ces choses hideuses de la terre que bien souvent nous reflétons parce que nos yeux sont fixés sur le monde, sur ses convoitises, alors que reflétons-nous les convoitises de ce monde? Qu'est-ce qui s'inscrit sur notre visage? L'envie, la colère et tant d'autres choses. Nous voulons regarder Jésus. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux disait que nous le voyons couronné de gloire et d'honneur. Lui qui a souffert la mort pour nous tous. Il est maintenant élevé dans une gloire aussi haute que son abaissement a été grand. Nous le voyons sur son trône et ce que nous savons, c'est que il va se lever pour venir sur les nuées à l'heure de son Père pour appeler à lui ceux qu'il appelle, ceux que Dieu lui a donnés. Et nous savons que lui désire avoir les siens auprès de lui. Est-ce que nous désirons être près de lui? Est-ce que nous avons le désir d'être près de lui? Est-ce que la personne du Seigneur est l'objet de l'affection de nos cœurs? Est-ce qu'il a captivé nos affections de telle manière que c'est à lui que nous aimons penser? Il meuble nos pensées, il remplit notre cœur, et c'est de lui que nous aimons nous entretenir, parler de celui qui remplit nos cœurs. Ça ne doit pas être pénible. Et une action de grâce, eh bien, ça devrait être spontané. Rendre grâce. Regardez les actions de grâce de Jésus. Tout à coup, il est dans la louange. Je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre. Ça jaillit de son cœur. Il ne fabrique pas une prière. Voyez-vous, la prière, c'est l'expression de notre état d'âme. Si nous sommes dans l'affliction, dans la détresse, eh bien nous faisons monter à lui nos requêtes, nos supplications. Nous lui disons notre état. Nous nous confions à lui dans la plus grande simplicité. Nous décrivons ce qui se passe dans notre cœur. Cela nous soulage. Et si vous êtes au contraire dans la joie, s'il y a de la reconnaissance dans vos cœurs, bien c'est spontané. Il y a un cantique dans votre cœur, un cantique de louange. Voyez-vous, Marie nous enseigne beaucoup là-dessus. Quand elle arrive chez Élisabeth, sa cousine, et que Élisabeth, au seul son de sa voix, sent son enfant tressaillir en elle. J'aime tellement cette rencontre à Ein Carême, près de Jérusalem. Ces deux femmes qui se rencontrent, ce sont des cousines en qui l'œuvre de Dieu opère, le Saint-Esprit a visité Élisabeth, une femme âgée, est à répéter le miracle qui s'est produit pour Sarah, la femme d'Abraham. Elle attend un enfant. Elle est enceinte depuis 6 mois. Marie, la jeune vierge, a été avertie par l'ange qu'elle deviendrait la mère du Seigneur. Et comme signe, il lui a donné vraiment cette certitude, tu peux voir ta cousine Élisabeth. Eh bien, elle est enceinte. Rien n'est impossible à Dieu. Car Marie disait, comment ces choses peuvent-elles se faire? Comment puis-je donner naissance à celui que tu m'annonces alors que je ne connais pas d'homme? Rien n'est impossible à Dieu. La puissance du Saint-Esprit viendra sur toi. Et alors Marie croit, Marie part. Et quand elle voit Élisabeth, eh bien, elle aussi a son âme dans la joie. Quand Élisabeth lui dit, heureuse celle qui a cru, car il y aura un accomplissement des choses qui ont été dites par le Seigneur. Elle sait combien ça répond aux pensées secrètes de son cœur. La salutation maintenant d'Élisabeth, heureuse est celle qui a cru. Deux générations, Élisabeth, la femme âgée, en qui l'Esprit opère. Marie, la jeune génération, pleine jeunesse, en qui l'Esprit opère. Bien-aimés, il ne devrait pas y avoir conflit entre les jeunes et les vieux quand on est au Seigneur. C'est le Seigneur qui opère, c'est son Esprit qui opère, aussi bien chez les personnes âgées qui lui appartiennent que chez les jeunes à l'aurore de la vie. Et nous devons être de ceux qui font tomber ces barrières et qui montrent par leur attitude que tout cela, ce conflit des générations dans ce monde, c'est un faux problème, et surtout entre enfants de Dieu. Nous sommes une famille, la famille de Dieu. Il n'y a pas une jeune église qui va aller dans cette direction, puis les vieux qui retiennent parce qu'ils veulent aller dans une autre direction ou maintenir certaines choses. Ensemble, tous soumis à l'autorité du Seigneur, remplis du Saint-Esprit, eh bien, nous voulons nous réjouir. Marie, par sa salutation, a fait tressaillir l'enfant dans le sein d'Élisabeth. Et puis, Élisabeth, par sa réponse à Marie, a mis dans le cœur de Marie un cantique qui a jailli spontanément. Voyez, c'est ça qui est beau. Hein. Elle n'a pas dit, je vais préparer une prière. Mais, et puis, elle s'est laissée aller et elle a loué le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. Et puis, toute cette louange, elle est vraiment tirée de l'Écriture. C'était une jeune fille qui avait l'Écriture sainte, non pas dans les rouleaux de la loi à la synagogue, mais au fond de son cœur. Elle s'en était nourrie dès sa jeunesse. Elle avait eu une mère qui lui avait enseigné les Écritures. Et élevée dans ce milieu, eh bien, l'Écriture était gravée sur les tablettes de son cœur, comme le demandait le livre des Proverbes. Je demande au Seigneur que nous puissions éprouver ce soir ce que c'est que le Saint-Esprit œuvrant dans nos cœurs et continuant l'œuvre qu'il a commencé un jour et dont Jésus vous dit, l'œuvre que j'ai commencée en vous, je l'achèverai. Elle sera rendue parfaite pour le jour du Christ. Parce que si vous vous laissez faire, bien le Seigneur continuera son travail. Contemplez le Seigneur et alors vous serez transformés à son image. Non pas vous vous transformerez péniblement, mais par la puissance du Saint-Esprit, vous serez transformés. Comme le Saint-Esprit a opéré chez Élisabeth, comme il a opéré chez Marie, il opère en vos vies pour former le Christ. Car le Christ, si vous avez reçu sa parole, il est en formation en vous. Que le Christ puisse grandir dans vos cœurs et que vous puissiez devenir, et moi avec vous, atteindre ensemble la pleine stature de la mesure du Christ. Nous prions. Dieu notre Père, nous avons hâte d'entrer dans ta maison, mais en attendant sur cette terre, nous savons qu'il vaut la peine de vivre. Nous savons, ô notre Dieu, que nous avons un témoignage à rendre. Nous voudrions pouvoir le faire avec toute simplicité et avec naturel. Nous voudrions que ce ne soit pas un zèle amer qui nous pousse à parler, mais que ce soit simplement le débordement de nos cœurs et que le monde sache que nous t'aimons, que tu nous habites, que nous sommes habités par toi, que tu es en nous, que toi en nous, c'est déjà le ciel dans nos cœurs. C'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix au sein même d'un monde de haine, au sein même d'un monde de tristesse et de trouble. C'est la bonté au sein de ce monde de méchanceté. Oh, nous voulons te demander que nous soyons des hommes de bonté, des femmes de bonté, qui ressemblent à leur Père céleste, que ton Fils unique nous a fait connaître. Oui, toutes tes gloires invisibles, ô Père, on resplendit sur la face du Christ, de sorte qu'en voyant Jésus, on pouvait déjà voir le Père. Donne-nous de te contempler, et qu'ainsi, en te voyant, nous puissions voir le Père. Et que, dans cette vision du Père, de ce Père éternel, de ce Père unique, de ce Père que l'on ne peut pas perdre, de ce Père qui ne nous abandonnera pas, de ce Père qui nous dit « Je suis le Père des orphelins, je suis le défenseur de la veuve. » Nous te prions pour toutes les veuves dans ce monde, nous te prions pour tous les orphelins, pour tous ceux qui n'ont plus de Père sur la terre, mais qui savent qu'ils ont un Père dans le ciel, bénis-les. Sois leur consolation, sois leur force, soit leur espérance, soit leur certitude, et donne-nous pour bientôt, pour très bientôt, ce rendez-vous là-haut. C'est notre prière en te demandant de nous bénir de ta bénédiction, la seule qui enrichit et à laquelle tu n'ajoutes aucun chagrin. Amen. Et bien-aimés, nous allons vous lire et vous suivrez dans vos Bibles, je pense, s'il y a assez de lumière, parce qu'il est très important que vous puissiez voir le texte, le chapitre 15 du livre des Proverbes, en cherchant déjà à appliquer les quelques règles, les quelques principes que nous vous avons mentionnés. Nous cherchons à bien comprendre un mot, alors nous faisons une lecture à haute voix et nous la faisons d'une façon intelligible et en essayant d'y mettre, quand nous lisons l'écriture, le ton d'après les mots qui nous sont donnés. Puis, nous cherchons aussi dans l'humilité à voir ou à entendre quelles paroles touchent notre conscience et nos cœurs. Ce ne sont pas toujours des promesses qui nous parlent. Certes, nous pouvons nous approprier les promesses quand nous lisons un texte. Mais attention, hein, nous ne devons pas lire la Bible seulement pour chercher des promesses et des encouragements, mais nous devons lire la parole pour voir à quoi nous en sommes, pour faire le point. Et la parole, eh bien, quand je la lis, elle ne m'encourage pas seulement, mais elle me corrige, et j'aime sa correction. Je ne hais pas la correction de la parole. J'en ai au contraire besoin parce que je ne suis pas arrivé. Nous allons vers la perfection, nous courons vers le but, mais nous ne sommes pas arrivés encore. Alors le Seigneur nous travaille, le Seigneur nous révèle par sa parole les points sur lesquels il n'est pas satisfait parce qu'il voit, nos cœurs. Toutes choses sont nues et découvertes aux yeux de celui à qui nous aurons à rendre compte. Moi, quand je me regarde dans un miroir, eh bien, peut-être que je ne suis pas satisfait, mais voyez-vous, mes bien-aimés, c'est le Seigneur qui veut nous révéler ce que nous sommes. Alors, que la grâce de Dieu nous soit donnée pour que nous puissions accepter aussi d'être corrigés par le Seigneur. Tiens, il y a ce verset, eh bien, ce verset-là, il me donne plutôt une petite claque. Hein. Il me montre que je mérite là d'être repris même peut-être sévèrement. Et je sais que si le Seigneur est sévère à mon égard, c'est parce qu'il m'aime. Parce qu'il m'aime. Alors acceptez cet amour qui châtie. C'est votre bénédiction. C'est votre bonheur. Et quand vous avez compris cela, tout change. Si vous pouvez accepter que le Seigneur vous châtie, le Seigneur mesure les coups et il ne vous tuera pas. Ce n'est pas un bourreau d'enfant, notre Seigneur. Le Seigneur, c'est un père d'amour, c'est un père de grâce, c'est un père au cœur de mère, comme quelqu'un que sa mère console. Ainsi je vous consolerai et vous serez consolés. Alors gardez le verset qui vous a frappé, gardez-le, chérissez-le, souvenez-vous de ce texte pour que vous ne retombiez plus dans les mêmes fautes. Le Seigneur m'a parlé. Je me souviens de certains moments dans ma vie qui s'est prolongé plus qu'on ne le pensait. Eh bien, je me souviens de ces moments où j'étais à genoux, où je lui disais, je vois encore la chambre, je vois encore le lieu, le pays où je me trouvais. Seigneur, que je me rappelle toujours de cette leçon, que je n'ai pas à recommencer. Donne-moi de me souvenir de ce que tu m'as montré aujourd'hui et que je ne recommence pas. Et le Seigneur nous entend et le Seigneur nous aide. Car, voyez-vous, c'est lui qui nous porte dès notre jeunesse, il le dit. Et quand on arrive dans la vieillesse, eh bien, il y a des moments d'angoisse parce que les forces diminuent, parce qu'il y a des infirmités qui se font sentir, des douleurs peut-être avant-coureuses d'autres choses, d'autres maux. Et vous le savez, inéluctablement, si nous n'avons pas la vision du retour du Seigneur, nous savons que nous ne sommes pas immortels. Nous savons que nous allons vers le décès. Eh bien, mes amis, nous crions à lui alors, et j'aime tellement cette prière du vieillard au psaume 71. Il dit, je me suis confié en toi dès ma jeunesse, ne m'abandonne pas au jour de ma vieillesse. Et quand ma force sera consumée, ne m'abandonne pas au jour de ma vieillesse. Ne m'abandonne pas quand j'aurai les cheveux blancs. Et alors la réponse du Seigneur, c'est ça qui est tellement merveilleux. Quand on s'entretient avec le Seigneur, on prie, on lui dit ce qui se passe dans notre cœur, et puis il nous répond. Ésaïe 46, jusqu'à votre vieillesse, je suis le même. Et jusqu'à vos cheveux blancs, je vous porterai. Je l'ai fait, je le ferai encore. Mes bien-aimés, voilà ce qu'est le Seigneur pour nous. Il nous répond, ne t'inquiète pas, je serai là quand ta force sera consumée. Je t'ai porté dès le ventre. J'aime beaucoup cette expression. Dès les entrailles de notre mère, il nous portait déjà. Notre mère pensait qu'il y avait elle qui nous portait, mais le Seigneur nous portait dans les entrailles de notre mère. Et c'est aussi encourageant pour les femmes enceintes. C'est pas simplement un travail comme ça qui se fait, mais c'est le travail de Dieu. Eh bien, comme Dieu travaille dans la matrice d'une jeune épouse, eh bien, il nous travaille aussi. Alors, nous allons retenir cette parole, nous laisser corriger, être des gens convaincus. vertus et qui cherchent à vivre selon leurs convictions et non pas selon les opinions du monde. Parce que si vous allez d'après les opinions du monde, eh bien, vous êtes des malheureux. Mais quand on a une conviction qui vient de Dieu, on ne peut pas l'imposer à d'autres, mais on l'a pour nous-mêmes, alors on est heureux. On se sent à l'aise devant le Seigneur qui a formé nos convictions. Puis, pendant que je lirai, vous essayerez de discerner qu'est-ce qui me parle de Jésus dans le chapitre. Hein. On va le lire. C'est bien, c'est bien. On va le lire. Mais je voudrais que vous fassiez vous-même l'étude, que ce ne soit pas ma réunion. D'abord, je ne fais pas ma réunion. On essaye d'être ensemble à l'écoute du Seigneur. Alors, vous écoutez, puis vous pensez, et le Saint-Esprit vous montrera certainement bien des choses. Est-ce que je peux discerner le visage du Seigneur? Est-ce que je peux discerner dans ce chapitre quelques traits de la personne du Seigneur? Alors, vous voyez, vous êtes tout de suite en recherche. Et c'est quand on est en recherche qu'on trouve. Mais si vous faites la lecture pour pouvoir dire « j'ai lu ma Bible aujourd'hui », c'est rien du tout, hein. Que vous êtes tanné de lire ce livre comme ça. Mais si vous êtes en recherche continuelle parce que vous voulez découvrir quelque beauté de plus de la personne de Jésus, découvrir quelque chose de sa bonté parce qu'il est bon, parce qu'il est beau, parce qu'il est merveilleux, c'est là son nom éternellement. Il est merveilleux. Pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Alors vous êtes en recherche. Vous lisez et puis le Seigneur vous édifie. Et puis, en même temps, vous vous dites, mais ces versets-là, est-ce qu'il n'y a pas des exemples dans l'histoire biblique qui pourraient les éclairer et les illuminer, cette parole? Nous sommes là devant le chapitre 15. Une réponse douce calme la fureur. Quel est le caractère d'un homme qui donne une réponse douce? Il est doux. Alors, souvenez-vous, est-ce qu'on pourrait trouver ça dans la personne du Seigneur? Mais une parole dure excite la colère. Vous avez des souvenirs? Est-ce que vous avez des exemples dans l'Écriture? La langue des sages rend la connaissance aimable ou la science aimable. Il y a une manière de parler quand on est sage qui fait aimer la connaissance, qui fait aimer la science, qui donne le goût de connaître. Mais il faut avoir cette manière de parler, la langue des sages. Un message suivant par qui il est transmis, vous heurte, vous bloque, vous irrite, ou au fond, vous désenchante. Tandis que, suivant la manière dont les choses vous sont présentées, eh bien, les vérités même profondes qu'on trouvait difficiles, voilà qu'elles commencent à s'éclairer, puis on se dit, mais je voudrais en entendre davantage. Et on veut connaître, par votre façon de présenter les vérités que vous connaissez, vous pouvez créer dans les cœurs le besoin de connaître. Mais alors, hein, ne dites pas n'importe quoi. La langue des sages, elle se retourne cette fois dans la bouche avant d'émettre une pensée. Et la bouche des insensés, elle répand la folie. Vous avez toutes sortes d'exemples. Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. Ça vous fait penser à une parole de Jésus? Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. Sermon sur la montagne, il parle de son Père, et il nous dit que Dieu fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Hein. Il fait tomber sa pluie seulement sur les justes. Non, sur les justes et sur les méchants. Voilà la bonté du Seigneur. Vous voyez la correspondance avec les proverbes et l'évangile? L'évangile dans les proverbes? Si vous continuez, la langue douce est un arbre de vie. Ça vous fait penser à quoi l'arbre de vie? À Jésus, et puis la Nouvelle Jérusalem pour le futur, oui, mais pour le passé, jardin d'Éden. L'arbre de vie était dans le jardin d'Éden. Mais on ne peut plus s'approcher de l'arbre de vie à cause du péché. Mais pourtant, eh bien, dans les proverbes, ici, c'est la troisième fois qu'on rencontre l'arbre de vie. Notez un peu ces fois où vous rencontrez l'arbre de vie. L'arbre de vie, nous pouvons nous nourrir de ses fruits aujourd'hui en attendant d'en goûter dans la félicité. Bien, qu'est-ce que c'est que cet arbre de vie? La langue douce est un arbre de vie. Vous-même, mes bien-aimés, là où vous êtes, dans cette terre de désolation, vous pouvez être un jardin d'Éden. Comprenez-vous? Vous pouvez être le jardin d'Éden dans une terre de désolation. Ce lieu de refuge, ce lieu de paix, ce lieu de lumière, ce lieu d'amour. Que vos vies deviennent un jardin d'Éden, délices et charmes. Le Seigneur y descendra, il viendra dans son jardin et il mangera ses fruits exquis. Est-ce que nous sommes disponibles pour être le jardin du Seigneur? Lui va le cultiver. Nous avons fait avec Josaphat et Françoise l'année dernière, je crois, le camp familial où nous avons parlé aussi de ce jardinier qui cultive son jardin. Nous devons être le jardin du Seigneur. La langue douce est un arbre de vie, mais la langue perverse brise l'âme. Oh, ce qu'on peut faire de mal avec notre langue. On peut tuer avec la langue. C'est la pire des armes. Vous êtes tous des gens armés. Vous avez tous une langue. Et vous pouvez faire tellement de mal. Mais vous pouvez aussi faire tellement de bien. Avec votre langue. Pas besoin d'aller chercher ailleurs. Avec votre langue. Et dans votre langue, vous pouvez faire tant de bien, mais aussi tant de mal. Alors dites au Seigneur, ben prends ma langue, prends ma langue. Prends ma langue, parce que moi, je ne peux pas en être maître, je dis des bêtises quand je parle. Alors, ouvre ma bouche, toi-même, et mets ta louange sur mes lèvres, mets ces paroles qui pourront être un baume pour les cœurs. L'insensé, verset 5, dédaigne l'instruction de son père, mais celui qui a égard à la réprimande agit avec prudence. Est-ce que vous êtes de ces gens qui ne peuvent plus accepter qu'on vous fasse une remarque ou qu'on vous signale peut-être quelque chose qui peut choquer, ou bien est-ce que vous êtes reconnaissant qu'on vous ait dit telle chose parce que vous sentez que vous n'êtes pas un arrivé et nous ne sommes pas parfaits et nous avons besoin justement de nous exhorter les uns les autres, mais toujours avec amour, pas avec un esprit critique, un esprit de jugement, ou parce que je voudrais que vous me ressembliez, mais parce que je vous aime et que je vois peut-être qu'en vous, le Seigneur veut faire son travail et il me demande peut-être de vous aider. Alors, nous devons être fidèles dans notre mission vis-à-vis de nos frères. Verset 6. Celui qui a égard à la réprimande agit avec prudence. Il y a grande abondance dans la maison du juste. Mais il y a du trouble dans les profits du méchant. Qu'est-ce que vous aimez? Les profits? Ou bien l'abondance qui se trouve dans la maison du juste? Voyez-vous, avec le Seigneur, le mot abondance revient sans cesse. Il est venu pour nous donner la vie, et la vie en abondance, une vie abondante. Nous n'avons pas le droit de ne pas être dans l'abondance. Le Seigneur est venu pour ça. Je suis venu pour que vous ayez la vie, que mes brebis aient la vie, chapitre 10 de Jean, et qu'elle l'ait avec abondance. Mais l'abondance se trouve dans la maison du juste. Et il est juste parce qu'il a donné raison à Dieu, puis il a accepté le sauveur qu'il lui a donné. Mais il y a du trouble dans les profits des méchants. Ce n'est pas l'argent qui compte pour le croyant. Verset 7. Les lèvres des sages, vous voyez, ça revient sans cesse, c'est ou la bouche, ou la langue, ou les lèvres. Les lèvres des sages répandent la science. Qu'est-ce que nous répandons? Avec nos lèvres. On peut répandre la science, on peut répandre la connaissance de Dieu, mais on peut répandre aussi la méchanceté. On peut répandre la calomnie, la médisance. Qu'est-ce que c'est que médire? Bien, c'est dire du mal de quelqu'un en son absence. C'est parler de quelqu'un. C'est peut-être même dire des choses justes, des choses vraies, mais on ne les lui dit pas en face. On en parle, on papote. N'est-ce pas? C'est ça la médisance. Un des enfants du mensonge, si vous voulez, dans votre collection. Finirez bien à la fin du camp d'en avoir sept. Mais il faut que vous soyez un peu en grossesse. On travaille. Nous en sommes à quel verset? 8. Les lèvres des sages répandent la science, mais le cœur des insensés n'est pas droit. Il y a des exemples dans l'Écriture. Le sacrifice des méchants est en horreur à l'Éternel. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Saül et Caïn. Caïn. D'abord, hein, le Seigneur n'a pas pris, n'a pas eu d'égard pour le sacrifice de Caïn. Voilà qui amène tout de suite de la lumière. Mais il lui parle à Caïn. Dieu a parlé à Caïn. Et nous disions que qui a prononcé le premier pourquoi? Nous avons dit qui a, dans ce monde, prononcé le premier cri? C'est pas l'homme, c'est Dieu. Où es-tu? Et il vous dit peut-être, en vous nommant par votre nom, où es-tu ce soir? Puis, c'est Dieu aussi qui a posé le premier pourquoi. Nous, nous posons des pourquoi. Nous ne comprenons pas que nous passions par telle ou telle épreuve. Et nous disons pourquoi. Mais le premier pourquoi, c'est Dieu qui l'a posé. À Caïn, pourquoi es-tu abattu? Pourquoi ton visage est-il triste? Vous savez, le Seigneur voit vos visages. Et il connaît vos cœurs. Et il a peut-être... À nous qui, tant de fois, crions pourquoi, lui a peut-être aussi à cœur de nous demander pourquoi, pourquoi, pourquoi mon enfant, pourquoi ma créature, pourquoi je voudrais tellement que tu puisses rayonner de mon amour et de ma joie. Répondez au pourquoi de Dieu ce soir, mes bien-aimés. Répondez au pourquoi de Dieu ce soir. Il vous lance un pourquoi. Quoi? Moi, je ne connais pas vos vies, mais lui les connaît. Mais il voit de la tristesse, il voit de la peine dans vos cœurs. Pourquoi? Est-ce que je ne suis pas là? Est-ce que je ne te vaux pas toute autre chose, toute créature? Quand vous avez le Créateur, avez-vous besoin tellement de la créature? Il nous envoie vers la créature, il nous demande de répandre notre amour vers la créature, mais lui veut être suffisant à mon cœur. Il y a un cantique que j'aimais beaucoup quand j'étais jeune. Amour de mon Sauveur, tu suffis à mon cœur, tu suffis à mon âme. Paix, repos et bonheur, je trouve tout en toi, réchauffé par ta flamme. Amour de mon Sauveur. Le sacrifice des méchants est en horreur à l'Éternel. Vous avez cité Saül, chapitre 15 du premier livre de Samuel. Le sacrifice de Saül était en abomination à l'Éternel. Mais la prière des hommes droits lui est agréable. Alors là aussi, si je vous demandais, donnez des exemples, vous pourriez le faire. Hein? La prière des hommes droits lui est agréable. À qui penseriez-vous ? À Daniel. Et à qui encore ? À Élie et à d'autres. Élie était un homme aux mêmes passions que nous, mais il était un homme droit. Et même Abel, alors Abel, hein, lui, justement, puisque vous avez parlé de Caïn, dans la première partie du texte, dans la seconde, c'est la prière d'Abel, l'offrande d'Abel. Pourquoi ? Parce que ses œuvres étaient agréables au Seigneur. Son offrande a été acceptée. La prière des hommes droits lui est agréable. La voix du méchant est en horreur à l'Éternel, en abomination à l'Éternel. Dans un ou deux jours, je vous signalerai combien de fois il est question d'abomination. Second a traduit horreur, mais Darby dit abomination. Et c'est vraiment le mot, des choses abominables. Mais nous, c'est plus abominable, c'est pour ça que quelquefois, eh bien, je vais très fort pour essayer de vous montrer ce que le Seigneur est et vous en donner la nausée de ces choses auxquelles nous prenons plaisir et le Seigneur les est. Vous devez avoir la haine du mal. Vous devez aimer, mais vous devez haïr le mal. Mais pour qu'on haïsse le mal, il faut qu'il nous écœure. Il faut que vous ayez vraiment ce sentiment, mais c'est écœurant. Et puis, pas écœuré des autres, mais écœuré de vous. Parce que pour se quitter, puis c'est ça le mot évangélique, hein. Le mot évangélique, c'est se quitter. Et pour se quitter, ben, il faut être écœuré de soi. Il faut être écœuré de soi. Parce qu'en ça, on ne se quitte pas, on se plaît avec nous. Or, les hommes de Dieu que Dieu a employés, ils ont tous passé par cet écœurement total d'eux-mêmes. Alors, la parole de Jésus, mais c'est une bénédiction. Renonce à toi. Tu ne seras plus écœuré. Renonce à toi, puisque c'est toi qui t'es. Puisque maintenant tu es écœuré de toi, tu peux renoncer à toi pour me saisir, saisissez le Christ, vivez du Christ. La voix des méchants est en horreur à l'Éternel, mais il aime celui qui poursuit la justice. Et dans le chemin de la justice, qu'est-ce que nous avons vu ? Il n'y a pas de mort. Il n'y a pas de mort. Alors, vous voyez comme on se retrouve un peu chez soi maintenant dans les proverbes. On est habitué à certaines phrases. Le chemin de la justice, eh bien oui. Eh bien, celui qui poursuit la justice, qu'est-ce qu'il est ? Il est aimé. Est-ce que tu es aimé ? Est-ce que tu as vraiment conscience que Dieu t'aime ? Il t'aime d'une façon complète, il t'aime d'une façon totale. Pas parce qu'il te voit aimable, mais parce que lui t'aime. Il trouve dans son propre cœur le motif de nous aimer. Et c'est son amour qui va nous transformer. Voyez-vous, il n'y a que l'amour qui transforme. Et les âmes, ce dont elles ont besoin d'amour. Et c'est par l'amour que vous les touchez, c'est par l'amour qu'elles seront transformées. Mais quel amour ? Cet amour de 1 Corinthiens, chapitre 27. Ah, bon. Je vois que vous connaissez vos bibles. Et ça, il ne faut pas ajouter à la parole de peur qu'on ne soit trouvé menteur. Bon. Oui, n'ajoute pas à la parole. Il n'y a pas de chapitre 27. Mais il y a un chapitre 13 dans les Corinthiens. Alors ça, on s'en souvient, chapitre 13 des Corinthiens. L'amour, ce qu'il fait, ce qu'il ne fait pas. C'est beau la parole. Verset 10. Une correction sévère menace celui qui abandonne le sentier. Mais pourquoi est-ce qu'il est question de correction pour celui qui abandonne le sentier ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'il est perdu ? Non. Pour qu'il revienne. Mais peut-être qu'il faut une correction sévère. C'est parce que Dieu voulait donner cette correction, parce qu'il est dit, mon père le soulignait souvent, quand Dieu doit châtier, quand Dieu doit punir, c'est une œuvre étrange. C'est un travail inaccoutumé. Nous avons ça dans le prophète Ésaïe. Une œuvre étrange, un travail inaccoutumé. Dieu n'aime pas châtier. Dieu aime bénir. Dieu aime vous caresser. Comme il l'a dit aussi dans un texte d'Ésaïe, je vous prendrai sur mes genoux. Je vous caresserai. Voilà le Père que je connais. Ce n'est pas le Père Fouettard. Mais, quelquefois, eh bien, il faut la correction. Et quand je m'écarte du sentier, voilà, la correction vient parce que le Seigneur veut me ramener à lui. Il veut me ramener à lui. Il a payé le prix, il ne va pas laisser la brebis s'égarer. Certes, on peut s'égarer. Mais le Seigneur est le bon berger qui veut nous ramener. Il laissera les 99 juste au désert pour aller chercher la perdue ou l'égarée, jusqu'à ce qu'il l'ait trouvée. Mais celui qui est la réprimande, qu'est-ce qui lui arrive? Il mourra. Celui qui ne veut pas être réprimandé, eh bien, il continue dans son endurcissement. Et qu'est-ce qui lui reste devant lui? La mort. La mort. Le séjour des morts et l'abîme sont devant l'Éternel. Le séjour des morts, c'est le tombeau. Hein? C'est le tombeau. Et puis l'abîme, qu'est-ce que c'est? C'est l'enfer. Hein? Le séjour des morts, c'est le lieu où vont les âmes après la mort, en attendant le jugement. Et puis l'abîme, c'est l'enfer, où Satan sera jeté dans l'abîme, dans l'étang de feu et soufre. Mais le séjour des morts et l'abîme sont devant l'Éternel. Combien plus le cœur des hommes. Les yeux du Seigneur nous contemplent. Alors, il voit mon cœur. Et quelquefois, j'ai été arrêté par cette pensée. C'est quelque chose de terrible. Vous vous rendez compte que Dieu, le Dieu trois fois saint, dont cette lumière inaccessible, quand il regarde la terre, qu'est-ce qu'il voit? Dans ce monde qu'il a créé, qu'est-ce qu'il voit vraiment pour lui? Vous me direz, oh bien, il voit des églises, il voit des cathédrales, puis il est très réjoui au Québec parce qu'il voit des salles évangéliques qui se multiplient. Oui, peut-être. Mais est-ce que Dieu habite dans les temples faits de main? Dans quoi voudrait-il habiter? Dans notre cœur. Alors, ce n'est pas des bâtisses qu'il veut d'abord voir. Il voudrait voir des cœurs dans lesquels il a la première place, dans lesquels il est au centre. C'est cela que le Seigneur voudrait voir, où il occupe toute la place. Voilà le temple saint du Seigneur. Ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas bénir le Seigneur pour les bâtisses. Il faut bien un lieu providentiel. Mais ne mettez pas votre cœur dans les bâtisses. Alors vous ne serez jamais déçus. Mais mettez votre cœur dans le Seigneur et il vous trouvera ces chambres hautes qu'il avait lorsqu'il était sur la terre. Le Seigneur est bon. Le Seigneur nous aime. Mais nos cœurs sont devant lui. Alors qu'est-ce qu'il voit dans nos cœurs? Qu'est-ce qu'il voit dans le cœur des hommes? Est-ce qu'il voit beaucoup d'amour pour lui? Je ne parle pas maintenant des chrétiens seulement, mais maintenant regardez ce qui se passe dans le monde. Qu'est-ce qu'il doit voir dans les cœurs? Pas seulement ce qui se passe dans les villes. Mais nous voyons ce qui est dans les villes, nous voyons les affiches, nous voyons ce qui est montré à la télévision. Vous croyez que ça plaît à Dieu tout ça? Alors si ça ne plaît pas à Dieu, est-ce que ça peut nous plaire à nous? Où est notre cœur? Verset 12. Le moqueur n'aime pas qu'on le reprenne. Non, moi. Je n'aime pas qu'on me reprenne. Le moqueur, c'est celui qui ne se soucie pas de la parole du Seigneur. Alors, il ne va point vers les sages, parce que justement, il a peur d'être pris. Alors, il ne fraye pas les sages. Verset 13. Un cœur joyeux rend le visage serein, plus que les cosmétiques. Le cœur joyeux, un cœur heureux. Qu'est-ce qui peut le rendre joyeux? Celui qui l'habite. Et il peut rendre le visage serein. Mais quand le cœur est triste, qu'est-ce qui se passe? L'esprit est abattu, et c'est vrai aussi. Quand le cœur est triste, quand on a un chagrin, eh bien, l'esprit aussi est abattu. Un cœur intelligent, vous pouvez voir, il y a plusieurs fois le mot cœur qui revient dans ce chapitre. Alors, vous faites une étude, alors vous pouvez mettre, bien voilà, un cœur intelligent, un cœur joyeux, puis il y a d'autres expressions. Mais un cœur intelligent, qu'est-ce qu'un cœur intelligent? Il s'éloigne du mal, hein? Et alors, il cherche la vraie connaissance, il cherche la vraie science. Un cœur intelligent cherche la science, mais la bouche des insensés se plaît
à la folie. Puis c'est vrai, hein. Parlez un peu, là, à vos camarades de travail. Vous verrez à quoi leur bouche se plaît. Si vous avez quelque chose de drôle à raconter, ils vous écouteront. Mais si vous leur parlez quelque chose d'édifiant, ils trouveront que c'est plate. Comme ils disent. Verset 15. Tous les jours du malheureux sont mauvais. Parce qu'au fond, c'est vrai. Tous les jours du malheureux sont mauvais. Mais le cœur content est un festin perpétuel. Est-ce que vous voulez avoir ce cœur content? Le cœur content. Content de ce que nous avons. C'est ce que saint Paul disait. J'ai appris à être content dans la situation dans laquelle je me trouve. C'est ça le vrai contentement. Le contentement d'esprit, il dit que c'est un grand gain dans Timothée. Le cœur content. Vous voyez, vous souvenez des humains, et ces humains vous font aller vers d'autres textes qui jettent de la lumière sur ces paroles. Verset 16. Mieux vaut peu. Je vous parlerai aussi du nombre de fois où il est dit mieux vaut. Mieux vaut peu, avec la crainte de l'Éternel, vous savez ce que c'est, qu'un grand trésor avec le trouble. Est-ce que vous êtes d'accord? Mieux vaut de l'herbe pour nourriture, là où règne l'amour, qu'un bœuf engraissé si la haine est là. Je préfère une salade. C'est simple l'écriture. Pourquoi est-ce qu'on dit que c'est tellement compliqué de comprendre les proverbes? Mais vivez dans la nature un peu. Mieux vaut de l'herbe pour nourriture, là où règne l'amour, qu'un bœuf engraissé si la haine est là. Un homme violent excite des querelles, mais celui qui est lent à la colère, qu'est-ce qu'il fait? Il apaise les disputes. Et là, vous auriez une foule de textes qui illustrent ce verset. Le chemin du paresseux est comme une haie d'épines. Vous aimez avancer dans une haie d'épines? Non, vous avez toutes les excuses de ne pas avancer. Voilà le paresseux. Il a toutes sortes de prétextes. Il voit des obstacles partout. Il ne peut pas faire ceci, il ne peut pas faire cela. Au fond, pourquoi? Parce qu'il est paresseux. Puis on a toutes sortes d'objections. Mais au fond, c'est parce que nous sommes paresseux. Mais allez dire ça à quelqu'un. Tu sais que tu es un paresseux, au fond. Ben, il sautera. En l'air. Vous voudriez dire ça à quelqu'un? Vous connaissez? Vous le pensez peut-être qu'il est paresseux? Ben, allez le lui dire. Vous me direz sur lui, vous direz à d'autres, au fond, moi, ce que je pense, celui-là, c'est un paresseux. C'est peut-être un frère en Christ, mais vous avez une pensée sur lui, c'est un paresseux. C'est vrai ou c'est faux? Mais avoir la charité de lui dire, de l'interpeller là-dessus, tu sais, au fond, est-ce qu'il y a pas un peu de paresse dans ton cœur? Les prêtres nous disent quelquefois que en confession, enfin disons que c'était autrefois parce que maintenant les confessions, il y en a plus beaucoup hein, qui vont se confesser, mais on ne se confessait jamais d'avarice. Jamais quelqu'un disait qu'il était avare. Allez dire maintenant à un chrétien, tu sais, t'es quand même un peu avare, t'es écossais. Il n'est pas là Jacques, hein. c'est pas de Jacques que je parle. Mais ça, il y a de l'avarice chez les chrétiens. Et du fait, l'avarice crasse. C'est terrible. Un chrétien avare. Il a du bien, mais il est avare. Mais de le lui dire, pour qu'il soit délivré de son Dieu, de son idole, qu'il ne va pas prendre avec lui, qu'il ne va pas emporter, quoi qu'il y en ait qui emportent ça dans leur cercueil, j'en ai connu. Ils veulent être enterrés avec leur fric. Verset 20. Parce que si le chemin du paresseux est comme une haie d'épines, le sentier des hommes droits est aplani. Un fils sage, ça peut être aussi une fille, c'est la joie de son père. et un homme insensé méprise sa mère. La folie est une joie pour celui qui est dépourvu de sens, mais un homme intelligent va le droit chemin. Les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Là aussi, vous pouvez trouver des exemples. Il faut chercher à être d'accord dans une assemblée. Il faut délibérer ensemble. Il faut se soumettre les uns aux autres dans la crainte du Christ. Et alors, un projet qu'on avait peut se concrétiser. Mais bien souvent, ils échouent pour des raisons que vous pouvez étudier. On éprouve de la joie à donner une réponse de sa bouche. Il faut l'avoir dans son cœur, la réponse. Et combien est agréable une parole dite à propos. Nous reviendrons sur ce texte dans d'autres chapitres, sur la parole dite à propos, une parole qui correspond vraiment à un besoin précis. Pour le sage, le sentier de la vie, il mène en haut. Le sentier de la vie, vous pouvez aussi étudier ces expressions, le sentier de la vie, le chemin du juste, la voie du méchant. Le sentier de la vie mène en haut, afin qu'il se détourne du séjour des morts qui est en bas. On tourne le dos au cimetière. L'Éternel renverse la maison des orgueilleux, mais il a fermé quoi ? Les bornes de la veuve. La veuve n'a peut-être pas une grande maison, elle a seulement un champ, mais il affermira le peu qu'elle a. Les pensées mauvaises sont une horreur à l'Éternel. Alors, est-ce que je vais me livrer ? Quand je me trouve avec des mauvaises pensées, est-ce que je vais les cultiver ? Ou bien est-ce que je vais dire, Seigneur, purifie-moi par ton sang. Le sang du Christ nous purifie de tout péché. Je ne peux pas empêcher d'avoir des mauvaises pensées. Ça vient comme ça. Mais ce n'est pas à les cultiver. Cette mauvaise herbe, ça s'arrache. Alors, je ne trouverai pas mon plaisir dans les mauvaises pensées. Parce que je sais que c'est une abomination, Seigneur. Quand tu te laisses aller à des mauvaises pensées, ben, tu es un abominable. Tu deviens un abominable. Alors, on ne veut pas être en abomination au Seigneur. Et c'est ça qui nous fait repousser ses pensées, pour amener nos pensées à l'obéissance du Christ. Mais les paroles agréables sont pures à ses yeux. Que nous puissions avoir des paroles agréables. Quand vous avez des mauvaises pensées, est-ce que vous avez des paroles agréables? Nos paroles découlent de nos pensées. Mais si vous avez des paroles agréables, eh bien, c'est que vos pensées sont purifiées. Alors, vous avez des pensées toniques. Des pensées fortes. Celui qui est avide de gain trouble sa maison. On peut donner aussi des exemples. Mais celui qui est les présents vivra. Le cœur du juste médite pour répondre. On vous demande une question, on vous pose une question. Et c'est pas si simple que ça. Ne croyez pas que nous avons toutes les réponses, vous avez toutes les réponses. Mais peut-être vous direz, bien, écoute, je vais penser à cela, ce que tu m'as demandé, et je vais prier. On médite avant de répondre, parce que suivant ce qu'on répondra, on va influencer la personne, et nous avons une grande responsabilité. C'est pourquoi, voyez-vous, quand j'entends les femmes qui veulent absolument avoir la prêtrise, qui veulent prêcher, à moins que ce soit le Seigneur qui les possède, parce qu'il y a toujours des exceptions aux règles. Mais quand on a cette responsabilité, parce qu'on a été appelé à ça, de présenter la parole, c'est toujours en tremblant qu'on le fait. C'est toujours en tremblant qu'on le fait. Et voilà, maintenant, on voit des femmes qui veulent absolument avoir ça, avoir cette responsabilité. Oui, si Dieu peut vous donner des responsabilités, mais avant les responsabilités, qu'est-ce qu'il vous faudra connaître ? L'humilité. Vous allez voir comme c'est dans ce chapitre. Nous allons terminer. Le cœur du juste médite pour répondre, mais la bouche des méchants répand des méchancetés. L'Éternel s'éloigne des méchants, mais il écoute la prière des justes. Voilà deux fois la prière dans ce chapitre. La prière des justes. Et avant, on a vu la prière des hommes droits. Verset 30. Ce qui plaît aux yeux réjouit le cœur. Une bonne nouvelle fortifie les membres. Vous voyez qu'il y a des médicaments là-dedans. Il y a des médicaments pour les membres, il y a des médicaments pour les os. Alors, venez puiser dans cette merveilleuse pharmacie qu'est la parole de Dieu. Il y a des remèdes contre la jalousie, contre l'envie. Des remèdes pour le cœur aussi. Puis il y en a aussi pour l'oreille. Verset 31. L'oreille attentive aux réprimandes qui mènent à la vie, c'est son séjour au milieu des sages. Celui qui rejette la correction, vous voyez que c'est un chapitre qui parle beaucoup de correction, mais celui qui rejette la correction, il méprise son âme. Il n'aime pas son âme. Tandis que celui qui accepte la correction puis qui est reconnaissant au Seigneur, il aime son âme. Mais celui qui écoute la réprimande acquiert l'intelligence. Et le dernier verset, 33, la crainte de l'Éternel, qui était le commencement de la sagesse, maintenant, qu'est-ce qu'on apprend? La crainte de l'Éternel enseigne. La crainte de l'Éternel qui a été le commencement de la sagesse, eh bien, cette crainte nous enseigne. Elle nous enseigne la sagesse. Et qu'est-ce qu'il est dit? L'humilité précède la gloire. Et dans la gloire, qu'est-ce que nous aurons, nous? Des responsabilités. Mais pour avoir des responsabilités dans l'état éternel, dans le royaume du Fils de son amour, il faut d'abord avoir l'humilité. L'humilité précède la gloire. C'est un verset merveilleux qui vous dit, dans la gloire, le Seigneur l'a dit, nous aurons des responsabilités. C'est pourquoi vous n'êtes pas simplement converti pour ne pas aller en enfer. Vous êtes sauvé pour servir le Seigneur. Et pour que le Seigneur puisse faire avec vous tout ce qu'il désire. Et s'il a pu vous employer dans le temps présent, dans ce monde où il a été crucifié, il vous dit que si vous souffrez avec lui, vous régnerez aussi avec lui. Et que si vous avez été fidèle dans les petites choses, il vous établira sur les grandes choses. Mais il faut d'abord la fidélité dans les petites choses, et ensuite, alors vous aurez une responsabilité dans les grandes choses. Il a fallu à Joseph qu'il passe par toute espèce d'humiliation pour pouvoir être un jour celui qui, après le Pharaon, régnait sur l'Égypte. Mais il a dû connaître la souffrance. Voilà qui me réconcilie avec toutes les souffrances. Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Emploie les moyens que tu veux. Je te fais éperdument confiance. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Pour moi, eh bien, c'est l'humilité avant les responsabilités. Alors, ce premier verset, qu'est-ce qu'il disait? Premier verset de ce chapitre. Alors, il vous mettait en contact avec qui? Avec celui qui est doux. Et le dernier verset vous met en contact avec celui qui est humble. Alors, vous voyez, dans ce chapitre, tout est du Christ. Je suis doux et humble. C'est quelque chose de merveilleux, la parole. Tout à coup, tiens, je n'avais pas vu ça. Puis, ça c'est clair, parce qu'on lit, on relit, et on relit encore. Puis, il y a des choses qu'on n'avait pas vues la première lecture, qu'on voit la seconde. Humilité qui termine tout et qui précède tout. Vous avez des questions? Voilà. Vous vous souviendrez qu'avec le chapitre 15, nous avons pu voir la douceur dans les paroles, la docilité au sujet des corrections. Nous avons été avertis au sujet du sacrifice des méchants. Et puis, il nous a rappelé que tout est connu aux yeux de Dieu. On a vu la ruine des orgueilleux. Puis, il nous a parlé du paresseux, de l'insensé, du méchant, opposé aux justes et aux sages et aux saints. Que la grâce du Seigneur soit avec nous. Nous recueillons dans la prière. Ô Dieu, nous te remercions pour ce repas que tu nous as permis de faire ensemble autour de ta parole. Et nous voulons réellement te demander ce soir qu'il y ait une parole qui ait pu parler à notre cœur. Tu nous vois avec des besoins différents, que nous ne puissions pas dire il n'y avait rien pour nous ce soir. Ce n'est pas nous qui avons parlé, nous t'avons laissé nous enseigner. Tu nous as enseigné, tu m'as enseigné moi-même. Et je veux passer vraiment ces heures qui viennent en ta présence pour que tu puisses continuer ton travail dans chacune de nos vies. Tu nous as mis dans une responsabilité dans ce camp et nous sommes en face de nos bien-aimés qui pour quelques heures passent avec nous un temps qui peut être peut-être le dernier, un temps unique. Nous te demandons que ce temps soit en bénédiction, une bénédiction durable. Que nous n'ayons pas besoin de parler du camp, mais que nos vies parlent de toi, que nous avons rencontré au camp de Dieu.